Vous écoutez, on lit pour vous.
This Bed We Made est l'équipe derrière ce jeu inclusif. Une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, parue le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. 4 années après sa fondation, le studio montréalais Low Birth Games débarque enfin avec This Bed We Made, une toute première proposition vidéoludique. Le résultat est un hommage inclusif aux œuvres d'Alfred Hitchcock et d'Agatha Christie, fermement implantées dans la belle province. Rencontre avec le trio à l'origine de This Bed We Made. Pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre implication dans This Bed We Made? Nous, Raphaël, Olivier et Chloé Lucier, formons le trio familial à l'origine de Low Birth Games. Collaborant depuis l'enfance, nous avons grandi en partageant une passion pour la création et l'innovation. Notre projet, This Bed We Made, est le fruit de cette complicité de longue date. Raphaël, avec son œil artistique, a capturé l'essence du Montréal des années 50 et Olivier a habilement tissé les cinématiques et les dialogues donnant vie à l'histoire. Chloé, dans son rôle de PDG, a contribué à orienter le projet vers les objectifs du studio en s'assurant que la création reste alignée avec nos valeurs. En tant que cofondateur et cofondatrice, nous avons tous apporté notre touche personnelle, veillant à ce que le jeu reflète nos idéaux et notre engagement envers l'authenticité. Ces 4 années de développement nous ont également permis de nous entourer d'une équipe dévouée et talentueuse, chacun apportant sa pierre à l'édifice, rendant This Bed We Made non seulement un jeu, mais une véritable aventure partagée. Quelles sont les origines de This Bed We Made? Comment ce jeu a-t-il évolué au cours de son cycle de développement pour arriver là où il est aujourd'hui? Nous souhaitions créer un jeu centré sur notre fascination pour la vie des autres, un thème très d'actualité avec la popularité des téléréalités et l'omniprésence des médias sociaux. Il s'agit d'un aspect qu'on retrouve également beaucoup dans les jeux vidéo, même dans des jeux d'action. On peut souvent s'arrêter pour fouiller les tiroirs et lire les lettres de différents personnages. Mais cette curiosité pour autrui y est rarement explorée en profondeur. Une femme de chambre d'hôtel nous a semblé le personnage parfait pour aborder la question, puisque son emploi lui donne accès aux vies privées de parfaits inconnus. C'est ainsi que Sophie, notre protagoniste très fouineuse, est née. Durant la première année de développement, nous avons travaillé seuls sur le projet. À l'époque, le jeu ne comportait aucun personnage non jouable, PNJ, et il n'était possible d'explorer qu'un seul étage de l'hôtel. En 2020, nous avons eu la chance de rejoindre l'Indie Asylum de Montréal, un hub collaboratif de studios de jeux vidéo québécois, puis nous avons obtenu du financement du Fonds des médias du Canada. Cela nous a permis d'embaucher nos premiers employés et d'accroître les ambitions du jeu. Nous avons notamment ajouté 2 nouveaux personnages, Andrew et Beth, que le joueur ou la joueuse peut choisir comme acolyte, afin de l'aider dans la résolution du mystère. Nous avons également été en mesure d'ajouter des sous-intrigues à l'histoire et de nouveaux étages à l'hôtel. Malgré tous les changements apportés en cours de route, la fascination pour la vie des autres est toujours restée au cœur du jeu. À quel thème et ou mécanisme « This Bed We Made » fait-il appel? Les mécaniques du jeu de « This Bed We Made » invitent à une immersion profonde dans les histoires intimes et les secrets des personnages, Que ce soit par le biais de dialogues interactifs avec les collègues de Sophie ou par l'exploration des chambres des clients et clientes et l'examen attentif de leurs possessions. Notre objectif était de créer une expérience où chaque découverte apporte une nouvelle perspective sur l'intrigue et pousse le joueur, la joueuse, à développer de l'empathie pour des personnages qu'il ou elle ne rencontrera peut-être même jamais. Au-delà de la fascination pour la vie des autres, le jeu aborde des thèmes encore trop rarement abordés en jeux vidéo, tels que l'invisibilité des personnes marginalisées et le stigma entourant la santé mentale. Il est important pour nous de repousser les limites du genre d'histoire qu'il est possible de raconter par le biais du médium vidéoludique. À quel point ou de quelle manière le jeu peut-il être queer? Est-ce que cela dépend principalement des joueurs? Le jeu invite le joueur ou la joueuse à choisir un ou une acolyte, Andrew ou Beth, qu'il est possible de romancer. Choisir Beth comme partenaire d'enquête peut donc mener à une relation queer avec Sophie. Il s'agit du seul aspect queer du jeu qui est laissé entre les mains du joueur ou de la joueuse. Sans trop tomber dans les divulgâcheurs, plusieurs personnages essentiels à l'intrigue sont également queer. Le jeu comporte plusieurs fins, certaines plus positives, d'autres plus négatives, et l'atteinte d'une bonne fin nécessite une réflexion du joueur ou de la joueuse par rapport aux enjeux auxquels faisaient face les personnes queer dans les années 50. Quel genre de recherche l'équipe a-t-elle effectué pour créer une identité queer, mais aussi des atouts authentiques, des conceptions de personnages qui semblent fidèles à l'époque dans laquelle se déroule le jeu? Nous avons effectué énormément de recherches historiques, autant avant que pendant le développement de This Bed We Made. C'est le documentaire canadien Forbidden Love, The Unashamed Stories of Lesbian Lives, disponible gratuitement sur le site web de l'ONF, qui nous a d'abord donné envie d'explorer la vie de personnages queer dans le Canada des années 50. Le film nous a également mis sur la piste des romans pulp lesbiens de l'époque qui ont été une grande source d'inspiration pour le jeu. Le roman The Price of Salt et son adaptation cinématographique Carol nous ont aussi beaucoup influencés. Au-delà de la recherche historique, ce sont surtout les expériences personnelles de notre équipe d'auteurs qui confèrent à nos personnages queer leur authenticité. Nous avons eu la chance de naître dans les années 90, dans une société beaucoup plus ouverte et inclusive que celle des années 50. Néanmoins, certaines réalités sont assez universelles à la plupart des personnes queer, peu importe l'époque. Nous avons donc pu puiser dans nos propres amours secrets et nos propres expériences de discrimination tout en nous assurant de toujours les recontextualiser dans le cadre des années 50. Le jeu est disponible et sur quelle plateforme? This Bed We Made est disponible sur PC et PlayStation 5 depuis le 1er novembre et sera également disponible sur PS4 et Xbox Series X et S à partir du 13 décembre. Nous sommes très fiers du jeu et souhaitons le rendre accessible au plus grand nombre de joueurs et joueuses possible. C'était This Bed We Made et l'équipe derrière ce jeu inclusif. Une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, parue le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue.
Journée mondiale de lutte contre le sida, regarder vers le passé pour définir le futur. Un texte de Stephen Ross, paru le 30 novembre 2023 dans le magazine Fugue. En 2023, la science et les diverses méthodes de prévention de la propagation du VIH permettent aux personnes atteintes du virus de vivre une vie presque normale. Bien que l'infection initialement mortelle ait été réduite au fil des ans à une maladie chronique, elle demeure toujours bien présente, tout particulièrement au sein des communautés LGBTQ+. Retour sur l'évolution du virus et perspective des principaux intervenants dans la lutte au VIH à propos des solutions pour parvenir, une fois pour toutes, à son éradication. Le 5 juin 1981, paraît le tout premier article faisant mention d'une infection touchant 5 hommes gays à Los Angeles. Le nom français utilisé mondialement pour identifier l'infection fatale est établi la même année par la direction de la terminologie du gouvernement canadien, syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA. En mars de l'année suivante, le Canada signale son premier cas de SIDA. La lutte s'organise au milieu des années 1980, alors que la première semaine de sensibilisation au SIDA au Canada est présentée à Toronto, tandis que la première conférence canadienne sur le SIDA est mise sur pied à Montréal en 1985. En 1988, l'OMS proclame le 1er décembre Journée mondiale de lutte contre le SIDA et en 1990, le gouvernement canadien crée la première stratégie sur le VIH. Malgré l'avènement de la trithérapie, développée à Montréal au milieu des années 1990, le VIH devient tout de même la principale cause de décès dans le monde chez les personnes âgées de 15 à 59 ans en 2002. Pour l'équipe de réseau, les communautés font aujourd'hui partie de l'équation pour éradiquer le virus, comme elles l'ont été dès le début du combat. L'organisme met donc en place plusieurs services adaptés qui ne jugent pas les pratiques et réalités des communautés, dont le dépistage communautaire à la zone rose de réseau. Selon Alexandre Dumont-Blais, directeur général de réseau, pour mettre fin à l'épidémie du VIH-SIDA d'ici 2030, l'exercice d'un leadership communautaire et politique est crucial afin de mettre les moyens reconnus à disposition des communautés affectées. Sans réserve ni barrière. La Maison d'Hérel adopte une approche axée sur les déterminants sociaux, c'est-à-dire les éléments qui ont un impact direct sur la santé des gens. La directrice générale de l'organisme, Michèle Blanchard, pointe vers diverses pistes de solutions concrètes. Notre vision est qu'il faut prendre position pour l'accès au logement, à l'alimentation et à du soutien pour demeurer indétectable et donc intransmissible. Ces bases sont pour nous la clé afin d'être des acteurs qui mettront fin au VIH. À la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le SIDA, COCQ-SIDA, on identifie 5 axes d'action prioritaires pour éliminer la transmission du VIH d'ici 2030. Le dépistage, l'adhérence au traitement, la réduction des méfaits, les déterminants sociaux de la santé, besoins de base, droits, et les partenaires durables. Selon le directeur général de l'organisme, Ken Montette, les acteurs communautaires ont les connaissances et les outils d'intervention qui peuvent mener à la fin de la transmission du VIH, mais les ressources sont manquantes pour les déployer adéquatement. Ce que nous revendiquons de nos gouvernements va au-delà des questions de financement. Ça nous prend en plus un engagement moral et le courage d'arrêter de mettre des bâtons dans les roues de la réponse au VIH par des lois qui éloignent les personnes des soins et fragilisent leur vie. Ça nous prend la décriminalisation de la non-divulgation du statut VIH, de la possession simple des drogues, du travail du sexe et un accès universel à la couverture sanitaire pour toute personne sur le territoire. Du côté d'ACCM, on abonde dans le même sens. Le contexte actuel de crise du logement, de crise de surdose, d'inflation et de haine envers les communautés LGBTQ+, n'a fait qu'augmenter la précarité, la stigmatisation et les enjeux intersectionnels auxquels font face les personnes vivant avec le VIH, relate la directrice générale de l'organisation, Émilie Renahi. Force est de constater que les priorités que nous avions identifiées dans le cadre des élections municipales et fédérales de 2021 pour mettre fin à l'épidémie d'ici 2030 restent identiques. Nous demandions la fin de la criminalisation de la non-divulgation du statut VIH, des drogues et du travail du sexe. L'accès universel et la couverture de tous les services de santé, incluant les thérapies antirétrovirales, la PrEP, la PEP, le dépistage et les services de santé sexuelle. En plus des membres des communautés LGBTQ+, certains autres groupes ou minorités sont disproportionnellement touchés par les cas de VIH. C'est le cas notamment des personnes migrantes, rappelle Joseph Jean-Gilles, directeur général de Gap Vie. Nous devrons trouver une réponse adéquate au portrait accablant et inquiétant de l'infection par le VIH chez les migrants originaires de pays où la prévalence du VIH et de l'hépatite C est élevée. Un combat de tous les jours s'impose pour combattre de front la stigmatisation, la discrimination, le racisme, l'homophobie et la transphobie sous toutes leurs formes et par tous les moyens afin de contribuer à réduire les inégalités sociales en santé et en soins, ainsi que faciliter un accès universel aux soins et aux services de santé. À Montréal, éradiquer le VIH et le sida est un défi de taille et à Gap Vie, nous avons compris que pour atteindre cet objectif, on ne doit pas travailler de façon isolée, ce qui explique notre ancrage au quotidien dans tous les secteurs de la vie de nos populations clés qui sont très diversifiées. Au-delà des organismes communautaires, plusieurs acteurs privés du secteur de la santé sont mobilisés pour soutenir les personnes vivant avec le VIH et identifier les moyens les plus efficaces d'éliminer le virus. Mentionnons à cet effet VIVE, Soins de santé Canada, notamment la seule société pharmaceutique vouée entièrement à la recherche sur le VIH-SIDA et à son traitement, ainsi qu'à l'amélioration de la vie des personnes touchées par le VIH-SIDA. L'entreprise possède une longue histoire d'engagement, en partenariat avec la communauté canadienne du VIH par le biais de son programme d'action positive pour soutenir et améliorer les initiatives communautaires qui améliorent la vie des personnes vivant avec le VIH au Canada. Par ailleurs, du côté des efforts mis en place au niveau fédéral, le Canada est engagé dans la stratégie 95-95-95 établie par l'ONU SIDA et l'OMS afin d'aider à éliminer le virus d'ici 2030. Alors que plus de 62 000 personnes vivent avec le VIH au pays, l'objectif est d'atteindre les cibles 95-95-95. 95% des personnes infectées connaîtront leur statut sérologique. 95% recevront un traitement antirétroviral continu et 95% de celles-ci auront une suppression virale comparativement au profil actuel qui est respectivement de 86%, 97% et 92%. Plus de 40 ans après l'apparition du VIH, les divers organismes communautaires, privés et publics, sont donc toujours à pied d'œuvre pour établir les solutions les plus prometteuses afin de limiter la propagation et d'éliminer le virus de l'immunodéficience acquise. Au moment où l'objectif semble de plus en plus près, un mot est plus que jamais de mise : espoir. Info. Pour en connaître davantage sur les progrès et les actions nécessaires pour mettre fin à l'épidémie de VIH d'ici 2030, lisez le dernier rapport de l'ONU SIDA, www.unaids.org. À propos d'ACCM, accmontréal.org. À propos de réseau, réseausanté.org. À propos de GapVie, gapvie.ca. À propos de la Maison d'Erel, maisonderel.org. C'était Journée mondiale de lutte contre le sida, regarder vers le passé pour définir le futur, un texte de Stephen Ross paru le 30 novembre 2023 dans le magazine Fugue.
Les queers font rayonner le Québec à travers le monde. Une chronique de Samuel Larochelle, parue le 1er décembre 2023 dans le magazine Fugue. Pour ma dernière chronique en 2023, j'ai eu envie de mettre de côté mes revendications pour laisser place à une observation incontestablement réjouissante. Tout au long de l'année, les artistes queers ont fait briller la culture québécoise un peu partout sur la planète. D'ailleurs, ce texte a été écrit le 9 novembre dernier, journée où Kevin Lambert est devenu la troisième plume québécoise de l'histoire à gagner le prix Médicis après la défunte Marie-Claire Blais, elle aussi des nôtres, et Dany Laferrière. Après des semaines à faire les manchettes, Kevin Lambert a finalement reçu le Médicis, l'un des prix littéraires les plus prestigieux du monde francophone, pour son roman « Que notre joie demeure ». Notons, dans la même veine, la présence du Québécois Éric Chacour sur les listes préliminaires des prix Renaudot et Fémina, grâce à son premier roman « Ce que je sais de toi », vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires des deux côtés de l'Atlantique. La planète Livre a également vibré au rythme de Gabrielle Bouliane-Tremblay, qui a récemment visité la Suède et la France avec son roman « La fille d'elle-même » et de Chris Bergeron, dont le premier roman « Valide » est arrivé aux États-Unis et au Canada au début novembre. Les dragues québécoises ont également fait parler d'elles tout au long de l'année. Après avoir offert une grande performance à RuPaul's Drag Race Canada versus The World à la fin 2002, Rita Baga a animé la version belge de Drag Race qui fut couronnée de succès et renouvelée pour une deuxième saison. La reine du Canada, Gisèle Lullaby, a tourné en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe francophone. Les drag kings Rock Bière et Hervé Metal ont offert des spectacles en Europe durant l'automne. Et la célèbre Barbada, d'une force impressionnante durant la controverse au sujet des lectures adaptées pour les enfants, est apparu sur Out TV, un peu partout dans Call Me Mother et Sue Fierce. Au cinéma, la réalisatrice Sophie Dupuis a vu son magnifique film Solo, dont l'histoire est campée dans l'univers des dragues, gagner le prix du meilleur film canadien au TIFF, Festival de cinéma, à la réputation internationale qui n'est plus à faire, alors que son interprète fétiche, Théodore Pellerin, a tourné dans deux séries destinées à des plateformes américaines. D'une part, il a incarné le marquis de Lafayette, un héros français de la Révolution américaine, aux côtés de Michael Douglas dans Franklin, une série produite par Apple. D'autre part, il a joué le grand amour du créateur Karl Lagerfeld, joué par Daniel Brühl, dans la série Kaiser Karl, qui sera diffusée sur Disney+. L'amoureux de Pellerin, l'acteur François Arnault, de Borgias, J'ai tué ma mère, est apparu dans la deuxième saison de Yellow Jackets, en plus de tourner dans le pilote du feuilleton juridique Judgment pour le réseau américain ABC. Si la pianiste et compositrice Alexandra Streliski, qui est repartie du plus récent gala de la disque avec la statuette de l'artiste s'étant le plus illustré hors Québec, son compatriote Jean-Michel Blais n'est pas en reste, alors que les deux musiciens multiplient les spectacles à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Dans un même ordre d'idées, impossible de passer sous silence la prestation remarquée du chanteur David Latulippe dans la nouvelle version de l'opéra rock Starmania qui fait sensation en Europe et qui sera présentée au Québec en 2024. Le pro des comédies et des revues musicales, Philippe Touzel, qui a fait la pluie et le beau temps dans Hair au Québec l'été dernier, continue pour sa part de tourner avec la troupe française du spectacle « Je vais t'aimer ». En musique, toujours, la Montréalaise Brianna Donolo, mieux connue sous son nom d'artiste Rêve, est en train d'enflammer la planète. Celle qui a offert le spectacle de clôture de Fierté Montréal en août dernier accumule les millions d'écoutes sur Spotify et elle vient de lancer son premier album. À l'autre bout du spectre musical, Yannick Nézet-Séguin dirige non seulement l'Orchestre métropolitain de Montréal, l'Orchestre philharmonique de Philadelphie et celui du Met de New York, mais il a également guidé l'acteur Bradley Cooper dans la création de son personnage de chef d'orchestre pour le film Maestro et l'actrice Sophie Desmarais dans le film de la réalisatrice québécoise Chloé Robichaud, Les jours heureux. Mention spéciale aux fans européens de la série Web Mon Bro, aux nombreux prix récoltés à l'international par Simon Boulris avec la série Géolocaliser l'amour, ainsi qu'à la diffusion française de La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, l'adaptation télé qu'a réalisé Xavier Dolan avec la pièce de Michel-Marc Bouchard. On ne peut évidemment pas oublier de mentionner les innombrables productions des pièces de Bouchard, de Michel Tremblay et de Robert Lepage, qui sont jouées chaque année dans plusieurs pays à travers le monde. La preuve que le Québec serait bien dépourvu pour se gargariser à l'international sans l'apport inestimable des artistes LGBTQ+. La preuve aussi que même quand j'essaie de ne pas militer ni de prendre position dans une chronique, j'échoue un petit peu, avec grand plaisir. C'était « Les queers font rayonner le Québec à travers le monde », une chronique de Samuel Larochelle, parue le 1er décembre 2023 dans le magazine « Fugue ».